Voici le culte protestant, un service spécial pour le dimanche de la mission que présente Philippe Gilliéron.
Bonjour. Les cloches qui vous appellent à ce culte arrivent de très loin, du Mont Tabor en Israël. Car en ce dimanche, traditionnellement centré sur la mission, nous avons confié ce service à un pasteur qui habite Jérusalem depuis 17 ans. D'origine française, ayant étudié la théologie à Neuchâtel, le pasteur Claude Duvernois est devenu citoyen israélien. Il a fondé l'Action chrétienne pour Israël lors de la guerre de Kippour afin de rassembler les chrétiens aux côtés de la nation d'Israël par respect des promesses bibliques et en conscience du rapide mûrissement apocalyptique et messianique de cette fin de siècle. À travers ce ministère, il annonce la parousie glorieuse, le retour du Christ, aussi bien aux églises qu'à la synagogue. Et concrètement, grâce à l'appui de chrétiens de notre pays, il vient en aide à des milliers de familles juives dans la détresse. Car, il faut le rappeler, Israël fut dès sa renaissance en 1948 abandonné par ce qu'il est convenu d'appeler la chrétienté. Sans même parler de tant de siècles d'antisémitisme religieux, ce témoignage s'imposait pour tenter de réparer cet abandon. Vous ne manquerez pas d'être surpris ou de vous étonner de la liturgie de ce culte. D'entente avec l'officiant, nous l'avons emprunté au service sacré d'Ernest Bloch, interprété par l'Orchestre philharmonique de New York sous la conduite de Leonard Bernstein. C'est une œuvre chantée en hébreu et qui restitue la liturgie synagogale telle que le Christ l'a sûrement connue. Enfin, en ces temps troublés où tant de nuages s'amoncellent non loin de la Palestine, il faut souligner que ce service sacré, créé en 1934, c'est voulu un message de foi et d'espérance pour le monde entier. Il s'ouvre sur un prélude inspiré par la parole « Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Puisse ma prière, Seigneur, arriver jusqu'à toi en cette heure favorable. »
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Écoutons comment notre Dieu désire être servi. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, notre Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-là. En présence du Dieu saint, que chacun à présent confesse son péché. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance, qui uses de miséricorde à l'égard de ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles et nous nous sommes détournés de tes commandements. Mais puisque ton Fils a prié sur la croix pour ses propres bourreaux, nous te prions pour nous qui l'avons crucifié tant de fois et de tant de manières par nos sentiments, nos paroles et nos œuvres coupables. Seigneur, nous t'avons encore offensé par nos jugements orgueilleux et suffisants, aussi bien que par nos méprises et nos duretés envers ceux qui ne connaissent pas ton Fils. Nous t'avons blessé par notre complaisance à partager les haines que le monde nourrit pour le peuple où tu as choisi de préparer la naissance de Jésus-Christ. Seigneur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. En réponse, notre Dieu nous dit ceci dans sa parole. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi, à tous ceux qui se repentent et qui cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde maintenant le pardon de leurs fautes. Et dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi évangélique. Nous croyons en Dieu le Père et nous disons avec Abraham, « Il est le Dieu du ciel et de la terre ». Nous disons avec Moïse, « Nul n'est semblable au Dieu d'Israël, c'est un Dieu fidèle et saint, juste et droit ». Nous disons avec David, « Que tu es grand, il n'y a point d'autre Dieu que toi ». Nous croyons en Jésus-Christ, la parole faite chair, dans le sein de la Vierge Marie, et nous disons avec Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous disons avec André, « Nous avons trouvé le Messie. » Nous disons avec Nathanaël, « Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Et nous disons avec Pierre, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, tu as les paroles de la vie éternelle. » Nous croyons au Saint-Esprit promis par les prophètes, répandu par le Fils sur son Église, et nous disons avec Job, « L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Nous disons avec Ézéchiel, « Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous. » Et vous vivrez. Nous disons avec Paul, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel s'écrie Abba, Père. Et nous disons avec Jean, nous connaissons que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Écoutons avec recueillement la lecture de la parole de Dieu, telle qu'elle se trouve tout d'abord révélée dans la Bible hébraïque, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 34, quelques versets de ce début de chapitre. Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle, et ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit, car l'indignation de Dieu va fondre sur les nations et sa colère sur toutes leurs armées. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel et une année de représailles pour la dispute de Sion. Et les torrents d'Édom seront changés en bitume, sa poussière en soufre, sa terre comme du bitume qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement, et d'âge en âge, elle sera désolée. Et dans le Nouveau Testament, la lecture de la parole de Dieu, telle qu'elle nous est révélée par l'évangéliste Luc, au chapitre 21e, à partir du verset 24. Et les enfants d'Israël tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car la dynamique céleste sera ébranlée. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre salut approchera. Et Jésus leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Enfin, dans le livre de l'Apocalypse, et tout le monde parle de l'Apocalypse aujourd'hui, sans trop savoir de quoi il parle, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18e, le récit de la chute de toute une économie mondiale, de toute une civilisation reposant essentiellement sur le profit et sur la violence. Apocalypse, chapitre 18, à partir du verset 9. Et tous les princes de la terre qui se sont livrés avec la grande Babylone à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante en une seule heure, est venue ton jugement, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leurs produits. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamore, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, et de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. » et les marchands de ses produits qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et ils diront « Malheur, malheur !» La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure tant de richesses ont été détruites. Et tous les marins, tous ceux qui naviguent vers elle, les marins et tous ceux qui exploitent les mers se tenaient éloignés, et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, « Quelle ville était semblable à cette grande ville ?» Le texte de notre méditation ce matin se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24 et verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Parmi tous les signes redoutables qui se rencontrent en notre fin de siècle, signes que la presse et autres moyens d'information qualifient d'apocalyptiques, comme il est réjouissant de vivre celui-là, nullement redoutable, le message biblique, l'Évangile annoncé sur toute la terre, car il aura fallu plus de 19 siècles pour que cette prophétie du Christ voie enfin son accomplissement. 19 siècles d'actes héroïques, d'épreuves, de mépris et de persécutions. 19 siècles qui s'écoulent depuis le temps de l'apôtre Paul jusqu'à nos multiples stations et maîtrises qui, en ce moment même et chaque jour, proclament l'Évangile dans toutes les langues à tous les peuples. Ce qui fait que nulle nation ne pourra prétendre n'avoir pas su, n'avoir pas entendu. Lorsque le Christ bientôt fera irruption sur notre planète en folie afin de la sauver in extremis, n'en doutons pas. Et ce qui fait que nul homme d'État, nul chef d'État, s'il se prétend chrétien, ne pourra affirmer qu'il ignorait, qu'il fallait, comme disait Jeanne de Lorraine, que Messire Dieu fût premier servi. Amis connus et inconnus, il convient ici de ne pas nourrir de fatales illusions. Le Christ n'annonce pas que les nations seront converties, revenues à Dieu, elles et leurs chefs, lors du retour de notre Seigneur. Et il suffit de considérer l'état du monde en ce début 1980 pour réaliser combien les nations et leurs régimes, plus ou moins ouvertement, plus ou moins subtilement, ignore les exigences bibliques et les commandements évangéliques, lorsqu'elle ne les bafoue pas, lorsqu'elle ne s'en moque pas. 19 siècles de chrétienté nous ont amenés à cette fin de siècle apocalyptique où plus des deux tiers de la planète sont en proie au fléau de la famine, de la misère, de la guerre et de la haine aveugle. L'Occident chancelant sous ses richesses trompeuses, totalement livré au pouvoir de Mammon, aux multiples facettes d'or, d'argent, de diamant, de pétrole. Et pour ce qui est de la fièvre actuelle de l'or, quelle image nous offrent ces foules dans les bourses des cités financières, masses d'hommes hurlantes et hystériques, aveuglées par leur cupidité. Oui, dans ce trafic diabolique dont nous avons lu la liste dans le livre de l'Apocalypse, et dont le dernier article correspond au corps et aux âmes des êtres humains. Et il y a tellement de manières de trafiquer aujourd'hui encore des corps et des âmes des êtres humains. Si bien que l'on pourrait honnêtement se poser cette horrible question, après 19 siècles, cela valait-il la peine ? N'est-ce pas l'échec total ? Amis connus et inconnus, je crains fort que la chrétienté se soit depuis longtemps assoupie sur ses lauriers fanés et ne sache absolument plus reconnaître les signes des temps, et qu'elle a perdu le don de prophétie, laissant à quelques sectes pour l'usage qu'elles en font la prédication prophétique. Et si nous pensons, mes amis, à ces lettres aux églises qui sont adressées au début du livre de l'Apocalypse, ne devons-nous pas réaliser les deux situations du Christ ? Tout d'abord lors de la période apostolique, et puis en notre temps de la fin. Au début, nous voyons le Christ au sein même de ses communautés, par le merveilleux symbole de la menorah d'Israël, du chandelier à sept branches, symbole de la présence de Dieu au sein des siens. Et à la fin de l'histoire dite chrétienne, nous voyons le Christ se tenir à la porte, pratiquement expulsé et frappé pour qu'on lui ouvre. Mais paradoxalement, c'est le Christ qui nous rassure, car il était sans illusion quant à l'état de la chrétienté à l'aube de son retour, lui qui déclarait un jour tristement « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et je pense en ce moment, face à cette parole redoutable et désabusée, à François Mauriac que j'avais connu, ce chrétien qui s'efforçait d'être un chrétien authentique, courageux, et chaque fois que je le rencontrais, il me citait cette question du Christ avec angoisse. La question de notre chrétienté aujourd'hui, me semble-t-il. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? En ce temps d'apostasie, de mauvais bergers mercenaires, de gourous pour bonne société et de pseudo-évangélistes hommes d'affaires, la bonne nouvelle de la Torah d'Israël, des prophètes et de l'Évangile est malgré tout annoncée chaque jour à tous les peuples et dans toutes leurs langues, jusqu'au cœur même, et c'est un phénomène tout récent, jusqu'au cœur même de l'Amazonie. Signe prodigieux que nous donne Jésus le Seigneur, afin que nous sachions non pas fixer le jour et l'heure précise, le moment exact de son retour, mais afin que nous sachions, par les signes qu'il nous donne, en saluer la génération. Car à la fin de ce chapitre 21e de l'Évangile selon Luc que nous avons lu, au début de ce culte dominical, Jésus lui-même affirme, et je le cite, « cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. » Et il affirme cela tout de suite après avoir évoqué son glorieux retour. Face à cette extraordinaire prophétie, tant de théologiens, tant de spécialistes, aux raisonnements sclérosés par leur propre science, plaignent depuis des siècles ce pauvre Jésus qui se serait si douloureusement trompé, puisque sa génération a disparu voici plus de 19 siècles, et rien de tout cela ne s'est produit. Amis connus et inconnus, sachons comprendre cette prophétie du Christ qui s'adresse clairement à la génération qui verra et connaîtra les signes de la parousie, de son retour. Et tout d'abord, signe éclatant mais qui aveugle les nations et leurs chefs, la résurrection israélienne et la réunification de Jérusalem dans le sein d'Israël. C'était en juin 1967. Car c'est bien le retour du Christ qui se joue dans les coulisses de Jérusalem en ce moment, de Judée, de Samarie, du Golan et du Sinaï. Et non pas l'avenir immédiat ou la gloire d'un Begin, d'un Dayan ou d'un autre. C'est un Israélien qui vous le dit. Et tous les régimes qui recouvrent les ennemis d'Israël d'armes diaboliques sont déjà jugés par le Christ, car il n'y a pas de différence dans l'optique divine entre lutter contre Israël les armes à la main ou recouvrir ses ennemis de ces mêmes armes. Autre signe, les signes dans les cieux, l'homme faisant quelques pas dans l'espace pour y placer d'ailleurs ses armes de mort. L'angoisse et la terreur s'installant sur toute la planète. Et pour employer un terme récemment utilisé par le pape, le carnage atomique en perspective. Le pape, hélas, comme les autres papes de moindre stature en chrétienté, n'annonce pas l'issue messianique et salvatrice, le retour du Christ, et il demeure ainsi dans l'ornière humaniste, véritable opium à notre époque pour les peuples, car comment, après Auschwitz, Hiroshima, à l'heure du génocide des enfants cambodgiens, à l'heure où l'homme est torturé dans un camp ou dans l'autre, par telle ou telle idéologie chaque jour, à l'heure où marchands de canons et de pétrole sont tout puissants apparemment et accumulent sous nos yeux leurs bénéfices éhontés, comment demeurer humaniste et mettre encore sa confiance dans cet apprenti sorcier devenu fou qu'est l'homme de cette fin de siècle? Oui, mes amis, pour la première fois dans l'histoire de la chrétienté, tous les signes du salut de l'humanité sont présents et la bonne nouvelle est enfin annoncée à tous les peuples dans toutes les langues. Mais permettez-moi une dernière mise au point, capitale à mon sens. Relisons la prophétie du Christ. Cette bonne nouvelle sera prêchée sur toute la terre. Alors viendra la fin. Depuis la grande peur de l'an 1000, tout le monde comprend fin du monde. Et tout le monde tremble, et tout le monde est dans l'angoisse et au bord du désespoir, alors qu'il n'y a pas de fin du monde, car s'il y avait une fin du monde, cela impliquerait la mort de Dieu, la mort du Créateur, lequel constamment, et nos temps modernes ne savent plus le voir, crée par amour et compassion des créatures. Nous faisons face ici à une lourde erreur commise par ignorance de la langue hébraïque, de la théologie hébraïque qui était celle de Jésus. Car Jésus, mes amis, n'a jamais prêché en langue grecque, mais en araméen lorsqu'il était en Galilée et en hébreu biblique lorsqu'il prêchait à Jérusalem. Ceci dit, il faut savoir que pour le bibliciste hébreu, le terme « monde » ne correspond pas à l'idée que l'on s'en fait en Occident. Il ne représente nullement ce que l'on appelle la nature, pas même notre histoire. Ce que l'hébreu nomme Aholam Azé et Aholam Abba, le monde qui est et le monde qui vient. Le premier, apparemment livré au génie comme à la folie de l'homme, et le second, brutalement inauguré sur la terre comme dans le cosmos tout entier, pour reprendre l'expression clé de Jésus dans la prière centrale qu'il a léguée à tous. Ainsi, lorsque Jésus se trouve silencieux et torturé devant Ponce Pilate, ce sont vraiment ces deux mondes qui se font face dans une absolue opposition, mais nullement de la manière dont les églises et les théologiens l'ont pensé et le pensent encore. Notre monde n'est nullement abandonné à César, alors que celui de Dieu serait quelque part dans le cosmos, nullement de ce monde, et réservé à quelques rares élus. Jésus veut, au contraire, en bon hébreu qu'il est, dire ceci, aussi bien à César qu'au monde. César, tu n'es que provisoirement le maître, et mon règne n'est pas encore mûr. Mais lorsque mon règne s'établira sur la terre comme dans le cosmos, alors le tien prendra fin à jamais, ton règne de violence et de guerre, de rapine et de mort. La fin du monde ? Mais c'est la fin de notre préhistoire sanglante et sanguinaire, et l'approche, réjouissons-nous. Car le temps vient de la victoire divine sur toutes les forces de mort. C'est pourquoi, au lieu de trembler et de craindre, au lieu d'être plongé dans l'angoisse en ces temps apocalyptiques, soyons dans l'allégresse, la paradoxale allégresse du croyant qui est celle de l'enfant d'Israël dans la tourmente, qui est celle du chrétien persécuté et méprisé, qui savent l'un comme l'autre, héritier de la parole de Dieu, dépositaire de la prophétie biblique, qui savent discerner au cœur même de l'Apocalypse que nous vivons les pas de notre commun Messie-Roi, de notre commun Sauveur, car ce Jésus qui vint dans l'incognito du serviteur de Dieu promis à la mort et à la résurrection, ce Jésus revient bientôt à Jérusalem sur le mont des Oliviers en Messie-Roi pour tous les peuples. Et comme elle est extraordinaire, cette harmonie qui existe entre les deux récits du retour du Christ, le premier dans Zacharie le prophète et le deuxième au premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Les deux, Zacharie comme l'évangéliste, situant la chose à Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Enfin, c'est encore Jésus qui nous avertit et nous dit, parlons, n'en doutons pas de notre époque. Si ces temps n'étaient abrégés, les élus eux-mêmes périraient. Mais pour l'amour des élus, ces temps seront abrégés. Que notre prière, mes amis, en ce temps de la prière universelle en chrétienté, que notre prière aujourd'hui et demain, la prière juive comme la prière chrétienne, supplie notre Père Céleste d'abréger les souffrances présentes partout sur la planète. Notre planète si belle, mais lentement mise à mort par l'homme. Notre planète qui soupire vers sa délivrance, comme le disait déjà l'apôtre Paul. Oui, amis connus et inconnus, que notre prière supplie chaque jour notre Dieu afin de hâter le glorieux avènement du Christ et la mise à mort de toutes les puissances de mort. L'établissement de la justice de Dieu aux antipodes de l'hypocrite justice des hommes. L'établissement de la shalom de Dieu, de la grande paix parfaite de Dieu aux antipodes de la fausse paix des nations. Amen. Je vous invite à présent à nous unir tous dans la prière d'intercession. Ô notre Père céleste, il est si grand notre privilège de pouvoir, en paix, recevoir ta parole, y rendre honneur, la proclamer. Et ils sont si nombreux sur la face de la terre, ceux qui sont persécutés à cause d'elle, ceux qui n'ont pas ce privilège et cette liberté que nous avons, mais tu leur donnes la force, tu leur donnes le courage. Et ils ne représentent pas, eux, des communautés assoupies et somnolentes qui ont pratiquement oublié ta parole et ses exigences et qui ne savent plus discerner les signes des temps. Ils sont si nombreux sur la face de la terre, tous les innocents maltraités et torturés. Ils sont si nombreux sur la face de la terre, tous ces petits-enfants agonisant pour tant de raisons. Que nous te supplions, notre Père céleste, de hâter les temps du salut, d'abréger ces temps d'épreuves et de souffrances sur toute la planète, par l'envoi glorieux de ton Fils, notre Seigneur, le roi des rois, le seul prince de toute la création, de nous l'envoyer avec les phalanges célestes afin de neutraliser définitivement sur notre planète les multiples forces diaboliques qui semblent aujourd'hui toutes puissantes. Et c'est aussi ta parole qui nous avait avertis. Le diable sait qu'il a peu de temps. Abrège les temps, ô notre Père céleste. Et nous te prions tout particulièrement pour la paix de Jérusalem, pour la paix d'Israël, non pas la fausse paix des tapis verts et des conférences internationales, non pas la fausse paix armée des conseils des nations. Mais nous te prions pour la paix qui viendra de toi brutalement, merveilleusement, violemment sur toute la terre, pour guérir cette humanité. Et nous te prions tout particulièrement pour la réconciliation de tous les enfants d'Abraham, quels qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens. Nous te prions pour leur réconciliation et que le temps vienne bientôt où toutes les nations pourront jeter toutes leurs armes aux ordures, là où elles appartiennent, où Mammon, le Mammon d'or, d'or jaune ou d'or noir, sera définitivement vaincu. Et nous rassemblons toutes ces demandes en te disant encore une fois, ô notre Père céleste, pour l'amour de ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que vienne ton royaume sur la terre comme au ciel. Amen. Que la paix de Dieu, notre Père céleste, qui surpasse toute intelligence humaine, que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse tout amour humain, et que la protection et l'inspiration du Saint-Esprit, qui dépasse infiniment tous les esprits de cette création, vous accompagne et vous garde chaque jour, jusqu'à ce que le règne de Dieu s'établisse sur la terre comme au ciel. Amen.
C'est par la bénédiction du service sacré d'Ernest Bloch, interprété par l'Orchestre philharmonique de New York, sous la direction de Leonard Bernstein, avec des chœurs israélites et chrétiens, que vient de prendre fin le culte protestant, un service spécial réalisé à l'occasion du dimanche de la mission. L'officiant était donc le pasteur Claude Duvernois, directeur de l'Action chrétienne pour Israël à Jérusalem. C'est bien volontiers que nous vous enverrons sur demande le texte de sa prédication de ce jour. Pour l'obtenir, il vous suffit de nous écrire sans tarder à notre adresse habituelle, Émission protestante, Maison de la Radio, 1211 Genève 8. Nous joindrons à notre envoi des précisions sur l'œuvre que poursuit Claude Duvernois en Terre Sainte, car nous aimerions vous la recommander chaleureusement comme bénéficiaire de votre offrande annuelle. Une fois l'an, en effet, toujours en ce dernier dimanche de janvier, nous proposons à toutes celles et à tous ceux qui participent régulièrement à nos cultes radiodiffusés de faire généreusement le geste de l'offrande, intégré habituellement dans la liturgie du culte lorsqu'on peut y participer dans sa paroisse. L'an dernier, vous avez magnifiquement répondu à notre appel par un don global et collectif de francs 15 000 pour l'œuvre que nous vous avions proposée au Zaïre. À toutes fins utiles, nous allons vous donner maintenant le numéro du compte de chèque postal de l'Action chrétienne pour Israël. Il s'agit du numéro 12 157 75. Déjà bien occupé par nos propres tâches administratives, nous vous serions reconnaissants d'éviter notre intermédiaire et vous remercions à l'avance de bien prendre note du compte de chèque postal de l'œuvre utile et nécessaire que nous vous proposons. C'est donc Action chrétienne pour Israël. Compte de chèque postal 12-157-75. Cela dit, nous vous avons promis dimanche dernier des détails à propos des prédications récentes que nous pouvons vous proposer sur cassette. Le service croisade à Genève, pour répondre à de nombreuses demandes, met à votre disposition, au plus juste prix de 16 francs la pièce, les cassettes suivantes. La première qui regroupe les trois prédications données l'automne dernier par le professeur Martin Achard sur la mort. Ensuite, deux cassettes comportant ensemble les quatre prédications de l'Avent, ainsi que celle de Noël, du pasteur Philippe Zeissig. Enfin, une autre cassette avec les trois dernières prédications du pasteur Maurice Ray, transmises ces trois derniers dimanches de Lausanne. Nous ne pouvons pas abuser de l'antenne pour vous donner plus de détails. Nous les enverrons, par écrit, avec des bulletins de commande, à tous ceux qui nous écriront à ce sujet. Toujours à notre même adresse, Émission protestante, Maison de la Radio, 1211 Genève 8. C'est une expérience que nous pouvons tenter grâce à l'obligeance de nos amis de croisade. Pour l'heure, nous sommes prêts à vous servir d'intermédiaire. Et surtout, ne nous adressez pas d'argent à l'avance à ce sujet. Il sera assez tôt et plus simple pour nous de régler votre commande à réception. Merci d'avance de votre compréhension. Et merci enfin de nous écrire clairement et lisiblement, sans omettre votre adresse, ce qui arrive hélas encore trop souvent. Tous ces renseignements donnés, qui nous semblaient nécessaires, il nous reste à dire notre reconnaissance au pasteur Duvernois. Nous avons profité d'un bref passage qu'il fit en Suisse ces derniers jours pour réaliser ce culte avec la collaboration technique de Daniel Jeanmaire de La Chaux-de-Fonds, auquel nous disons aussi notre gratitude. Le message qu'ils nous ont transmis ne nous laissera pas insensibles. Le retour promis du Christ ne nous autorise pas à l'attendre sans prendre notre part personnelle à l'annonce de la bonne nouvelle du royaume dans le monde entier. Cela devait nous être rappelé en ce dimanche consacré à nos responsabilités missionnaires. Dès dimanche prochain, pour 3 nouveaux dimanches, nous retournerons dans une paroisse de notre pays. Nous serons les hôtes de celle de Bulle avec le pasteur Robert Lavanchy. Voilà, nous prenons maintenant congé de vous, de chacun d'entre vous, en souhaitant à tous ensemble un dimanche paisible et lumineux, précédant une nouvelle semaine heureuse et bénie. Au revoir et à bientôt.
C'était le culte protestant, un service spécial.